Notre invité Guy Pagliano s'intéresse aux décisions locales et nationales.
Et c'est avec grand plaisir que je le reçois. Bonjour Guy Pagliano.
Bonjour François.
Nous allons parler avec vous de plusieurs sujets. On va tout de suite évoquer un sujet plutôt national, en liaison avec le reportage qu'on a entendu, où quelqu'un nous souhaitait une bonne route. Un projet de loi va entrer en vigueur certainement sur les routes départementales. Une limitation à 80 km/h sur les routes départementales, ça n'est pas de votre goût.
Ça n'est pas de mon goût parce que je prends quelquefois la route, notamment pour aller à Digne ou pour aller à Valensole, et je trouve que limiter la vitesse à 80 km/h sur des routes sûres, bien dégagées, est un non-sens. Quand je roule, je fais attention à ce qui se passe autour et je n'ai pas les yeux rivés sur le compteur de vitesse, donc je pense que c'est une mauvaise mesure, d'autant plus mauvaise que je suis pas seul à partager cet avis, puisque d'après un sondage, 78% des Français sont contre cette mesure.
Alors on verra ce que dira le gouvernement Philippe à ce niveau-là, mais c'est vrai que les départements aussi se sont mobilisés. J'ai vu que le département des Hautes-Alpes avait voté une décision, une délibération, mais qui sera nul, puisque bon, la préfecture va certainement l'annuler. Et le département des Alpes-de-Haute-Provence aussi, par exemple, pour ce qui est de notre territoire, qui a demandé un aménagement de ce genre de choses. Comment vous voyez l'avenir? Il y a des routes sur lesquelles on pourrait rouler, continuer à rouler à 90, et d'autres où on devrait réduire la vitesse?
Je pense que le fond du problème, c'est la sécurité routière. Donc, la sécurité, et ça se juge cas par cas, et ça se juge pas de manière générale. 90 me paraît une bonne mesure, et puis il me semble aussi que les expériences qui ont été faites sur la limitation à 80 dans d'autres départements en France ne sont pas assez significatives pour, à partir de là, décréter des mesures générales.
Alors, il y a plusieurs autres sujets que vous voulez évoquer. On va revenir un petit peu dans notre territoire. Il y a par exemple le schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT, qui concerne Manosque. Je rappelle que vous présidez une association d'oléiculteurs sur le pays manosquin. Vous êtes aussi quelqu'un qui avait beaucoup travaillé dans une commune en tant que fonctionnaire territorial, donc vous connaissez quand même pas mal de choses, et ce SCOT de Manosque vous fait réagir.
Le SCOT me fait réagir parce que ça a été mon pain quotidien pendant plus de 30 ans, donc je pense avoir quelques idées sur la question, et le SCOT m'intéresse, donc je me suis donné la peine de le lire page par page, et c'est
ce
un gros travail.
Ce qui est une prouesse, parce qu'il y a plus de 700 pages dans le SCOT. Vous êtes peut-être le seul à l'avoir fait.
Il y en a 779, à peu
779.
Près. À peu près 500 pour le schéma lui-même, et puis 200 pages environ d'avis divers, d'organismes, de préfectures, de conseils départementaux, etc. Donc, mais si on veut avoir une idée vraiment du schéma lui-même et de tout ce qui a trait à cette question, il faut tout lire et tout intégrer et tout analyser.
Alors évidemment, le SCOT, c'est une projection sur environ 30 ans sur le développement du territoire manosquin et autour de Manosque, puisque ça concerne les communes limitrophes aussi. Qu'est-ce qui vous déplaît particulièrement?
Ce qui me déplaît, c'est déjà l'angle sous lequel ça a été établi, c'est-à-dire que le SCOT fait des projections de population à l'horizon 2035, et à partir de ces projections, il en déduit des logements à construire, des emplois à créer. Or, la base d'établissement du SCOT, c'est l'année 2011. Et tous les documents, tableaux, etc. s'arrêtent à 2011. Nous sommes en 2018, soit 7 ans après. Il m'aurait semblé évident d'établir ces données, puisque c'est à l'enquête aujourd'hui en 2018, sur un recensement en 2017, ce qui n'a pas été fait.
Je rappelle aussi que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a tempéré un petit peu les appétits des élus en modérant aussi bien le nombre d'habitants qui était estimé possible à obtenir pour le territoire, le nombre de logements, etc., etc. Donc il y a eu déjà un petit peu d'ajustements qui ont été faits par l'État.
Disons que l'État est ce qui s'appelle une personne publique associée, c'est-à-dire il est, une fois que l'agglomération, en l'occurrence, que l'organisme a établi son schéma, il le transmet à des personnes publiques qui sont l'État, le département, la région, l'agence pour l'environnement, les parcs régionaux, Donc chacun fait ses commentaires. Et l'État, alors ce schéma a été établi en 2012, primitivement, il a été révisé en 2014, et ensuite en 2016, le projet a été établi. À ce moment-là, il a été communiqué à l'État, à toutes les PPA, les personnes publiques associées, et donc chacun a fait ses remarques, et l'État a dit, messieurs, il n'a pas tellement critiqué la population envisagée, il a surtout critiqué le fait que pour construire des logements, aujourd'hui, enfin, depuis 30 ans, pas seulement aujourd'hui, on prend des terrains à vocation agricole au départ. Et ces terrains, il suffit de voir les communes, qu'elles soient grandes comme Manosque, ou moyennes comme Villeneuve ou plus petites, pour voir qu'on a fait des lotissements sur des terrains agricoles. Or aujourd'hui, depuis 5 ans, on s'aperçoit qu'il est absolument vital de conserver la vocation agricole des terrains pour nourrir tout simplement les gens. Puisque la culture, ça produit du blé, ça produit des légumes, ça produit des fruits, et tout ça, c'est nécessaire pour nourrir la population. Il me semble plutôt évident qu'il vaut mieux manger les pommes de Manosque que manger les pommes de Nouvelle-Zélande.
Oui, et en plus de ça, c'est un territoire qui est alluvionnaire, et donc effectivement, ce sont des bonnes terres qui sont généralement malheureusement prises par
l'urbanisme. Voilà, ce sont des terrains agricoles à très bon potentiel agricole qui ont de l'eau, qui sont irrigués, donc qui sont tout à fait aptes à leur vocation agricole. Or, l'État a dit, bien, messieurs, révisez vos consommations de terres agricoles, qui au départ étaient de plus de 100 hectares, on a réduit cette consommation de terres agricoles, mais sans repenser la philosophie générale du SCOT, ce qui me semble dommage.
Il y a un autre sujet qui vous concerne directement dans le SCOT. Vous êtes issu d'une famille commerçante de Manosque. C'est évidemment l'animation du centre-ville et bien sûr le déploiement commercial autour de Manosque et dans Manosque.
C'est aussi un point sur lequel le SCOT me semble beaucoup pécher. C'est le commerce, bien sûr, mais l'habitat et l'habitat de centre ancien, qui sont deux préoccupations assez récentes des urbanistes et de l'État en général, et aujourd'hui on en voit exactement la traduction dans le plan gouvernemental qui promet de mettre beaucoup d'argent sur ces questions dans tous les centres-villes de toutes les communes de France, entre 10 et 50 000 habitants. Nous avons vu tout récemment un plan ministériel qui annonce 5 milliards d'euros sur 5 ans sur 222 communes. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent pour revitaliser ou dynamiser les centres-villes, non seulement en commerce, mais aussi en habitat. Parce que s'il y a des habitants dans les centres-villes, les commerçants pourront vivre. S'il n'y a plus personne, s'ils habitent tous en banlieue ou en village dortoir, le petit commerce ne pourra pas vivre. Et c'est bien dommage, et c'est la vitalité des centres-villes qui est directement en question.
Vous faites allusion au projet Cœur de Ville qui est défendu par l'État actuellement, et il y a deux villes dans le département des Alpes-de-Haute-Provence qui sont concernées. Le lapsus est terrible. Vous qui avez travaillé à Sisteron et que nous connaissons bien à Sisteron, Digne donc qui bénéficiera de fonds pour développer son commerce local et la vie locale aussi, ainsi que Manosque. Donc Manosque est dans l'engrenage aussi, c'est une bonne chose. On verra les effets de ce cœur de ville dans les années prochaines. Guy Pagliano, que peut faire un citoyen tout seul quand on a un gros projet comme ça et 769 pages à digérer?
Un citoyen, s'il aime sa ville et s'il veut son développement et sa pérennité, il s'investit lui-même, il prend son destin en main, il prend son courage à deux mains, il va sur le site internet de la DLVA lire, peut-être pas les 779 pages, mais il va lire le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable, et il va lire le DOO, le document d'objectif et d'orientation. Et avec ces deux documents, il aura une philosophie de ce qui est envisagé par les instances de la DLVA pour développer la ville qu'il aime. Mais tout le monde peut, y compris les petits villages, peut aller voir ce qui est prévu pour là où il vit.
C'est ce que vous avez fait. Vous avez également apporté votre contribution à l'enquête publique.
L'investissement du citoyen, il peut se manifester en allant soit déposer des requêtes écrites dans un registre ouvert dans chacune des 25 communes de la DLBA, soit les déposer par informatique, puisqu'on peut faire part de ses remarques de manière informatique, de chez soi sur son ordi. Il peut aller voir les commissaires enquêteurs pour leur dire de vive voix ce qu'ils pensent du dossier. Et tout ça figure dans le dossier, dans les permanences, les lieux, les heures, tout ça. Et c'est très bien fait. Moi-même, j'ai déposé plusieurs contributions parce qu'au fur et à mesure de mes lectures, de mes réflexions, j'ai émis plusieurs avis qui me semblent pertinent au vu de mon expérience passée.
Et je suppose que vous allez être très attentif au retour de cette enquête publique et aux résultats qui seront publiés prochainement.
Une enquête publique, donc, c'est une commission d'enquête composée de 3 commissaires, puisqu'il y avait 25 communes, donc beaucoup de travail. Ces 3 personnes émettront un rapport qui est, d'après la loi, rendu public. Et une fois public, on verra si certaines suggestions ont été retenues ou pas. Mais ces commissaires, in fine, émettent un rapport, et ce rapport émet soit un avis favorable, mais avec recommandation ou réserve, soit un avis défavorable. Ces commissaires enquêteurs ont vraiment un travail important, et un travail d'analyse et de réflexion qui, in fine, s'imposera à la DLBA. Les élus ne sont pas tout puissants et les avis des commissaires enquêteurs seront analysés, notamment par le préfet qui, in fine, approuvera ou n'approuvera pas ce projet de SCOT.
Donc un projet important qui concerne tout le monde sur ce territoire de la DLVA et qui, où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, c'est
chacun
le cas de dire.
Chacun doit apporter sa pierre, c'est-à-dire que chacun peut donner son avis. C'est l'objet même de l'enquête publique, de passer au tamis de la vie des citoyens ce que des bureaux d'études, des politiques et des fonctionnaires ont écrit sur un document.
Merci beaucoup Guy Pagliano d'être venu rappeler qu'on pouvait être maître de son destin également à ce niveau, ici à Manosque. Et puis, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir pour parler de ces questions qui nous concernent tous, comme je l'ai dit tout à l'heure. À bientôt.
À bientôt, François.